RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. La semaine dernière, nous avons utilisé un vocabulaire, je dirais, universel, intemporel, la question des obligations, de l'obligation. Et puis maintenant, peut-être se pose la question de savoir à qui tout cela s'adresse. Aux hommes, à leur société, je vous laisse en débattre.
Alors, effectivement, il y a beaucoup de contraintes dans nos précédents entretiens, même si ces contraintes permettent à la personne de trouver son plein épanouissement, c'est clair. Aujourd'hui, Yann, je voudrais toutefois renforcer mes convictions et tout simplement éclairer nos auditeurs en te soumettant au supplice de mes questions sur la prééminence de Dieu sur nos sociétés. Comment peut-on affirmer cela au XXIe siècle ? Alors tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'anthropologie. Quelle est cette discipline et quelle valeur a-t-elle dans les débats à notre époque ?
La science de l'homme, anthropos. De l'espèce humaine, hein, anthropos. Il faut faire attention, il est féministe. Anthropos, au sens l'homme, au sens du genre humain. Je crois que, je ne sais plus quel est le pape qui disait que l'Église était experte en humanité. Je crois que c'est Paul VI.
Paul VI,
semble-t-il. Experte.
Devant l'ONU.
Devant l'ONU, tout à fait. Oui, devant l'ONU, ça me revient. Et je pense que l'Église, effectivement, considère l'être humain dans sa totalité. L'être humain a une réalité matérielle, physique, biologique, terrestre. Je suis fait de chair, de sang, de tripes, un cerveau, un cœur, certes, mais également d'une âme. Cette réalité de l'âme, même des gens qui sont pas nés dans un bénitier, je pense à notre ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, qui, dans un de ses ouvrages, j'ai lu l'intégrale de Vincent Peillon, c'est remarquable.
Tu as du courage.
Non, il écrit très très bien, il a une intelligence, j'oserais presque dire démoniaque, c'est d'une clarté. Il disait, il y a en l'homme un élan pour l'infini, soit on abandonne les choses de l'âme, le spirituel, à l'Église et aux prêtres, et alors la République démocratique et sociale est vaincue. Soit on construit pour la République une religion, on fait droit dans la République à cette inspiration à l'infini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quelqu'un qui est farouchement anticatholique, parce qu'il est anticatholique quand dans le même livre il écrit « Il s'agit de terrasser définitivement l'Église », il est obligé de reconnaître qu'il y a une dimension spirituelle que l'Église prend en compte. Ça veut dire que l'être humain vu à deux niveaux, il vit la tête dans le ciel et les pieds sur terre.
Donc c'est bien de l'anthropologie.
On est en plein dedans. En plein dedans.
C'est une science moderne.
Oui.
Qui admet donc cette réalité à la fois physique, biologique, mais aussi la dimension sociale, psychologique et religieuse.
Bien sûr.
Donc c'est bien une vérité partagée par tous.
Oui.
Donc ce n'est pas simplement une doctrine qui est façonnée par des croyants, quelle que soit leur religion.
On en revient toujours à ces principes qui sont basés sur la droite raison, la raison naturelle.
Donc c'est une vérité.
C'est une vérité devant laquelle on est obligé de s'incliner. Un peu d'humilité. Je crois que c'est une des caractéristiques de notre époque contemporaine, comme je crois toutes les époques, c'est de placer l'homme au centre de tout. Ben non, l'homme n'est pas le centre de tout. Le centre de tout, c'est Dieu.
Mais c'est mal vu aujourd'hui d'affirmer, quand même, que Dieu est prééminent.
C'est peut-être mal vu, mais courbons les chines, courbons la tête, reconnaissons les choses. Et je ne sais plus quel était le sage de l'Antiquité qui disait « Il serait plus facile de construire une cité dans les nuées que de bâtir une société sans Dieu. » J'ai dit, il y a une humilité que nous ferions bien de retrouver. Quand nous voyons toutes les sociétés qui ont un culte rendu à Dieu ou au Dieu. Quand nous voyons la réalité du spirituel même dans les sociétés primitives, que chez nous on prétend à la laïcité, qui ne peut pas exister, puisque même un laïc comme un laïc, un laïciste comme Vincent Peillon, qui dit non, il ne doit pas y avoir de religion, il le dit lui-même. Il crée une religion laïque, ce qui prouve bien cette dimension, cette aspiration de l'homme. Donc, il y a la réalité d'un Dieu. Hein. L'erreur du ce qu'en philosophie on a appelé, en philosophie, en théologie morale, on a appelé le naturalisme, qui prétend bâtir la société en dehors de toute référence surnaturelle, sans l'éclairage de la foi, voire en la combattant, comme on vient de le voir avec certains personnages, est un déni de la réalité que même le monde païen a évité. En témoignent les civilisations païennes antiques, Athènes, Rome, entre autres, et toutes les civilisations qui n'ont pas connu le christianisme.
Une courte pause pour ne pas rester sur une erreur de civilisation, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour rebondir. Et le feu roulant des questions de Michel continue vis-à-vis de Yann qui va poursuivre son explication. Je vous rappelle que nous sommes restés sur une erreur. Alors, essayons de sortir.
Alors, je sens que tu me vois arriver. Est-ce que je souris, Yann ? Tu me parles de la prééminence de Dieu. Et ma question, ça mène quand même sur le risque d'une confusion entre le temporel et le spirituel.
Non, je crois qu'il faut être clair. L'Église distingue parfaitement bien spirituel, bien temporel.
Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église.
Non, bien évidemment. Hey, l'Église est faillible. Je sais pas qui tu es, toi tu es parfait. L'Église, n'oublions pas, elle est faite d'hommes. L'Église est impeccable, elle ne peut pas pécher. Les hommes peuvent pécher, je crois qu'on en a des bonnes illustrations aujourd'hui. Reconnaissons-le humblement. Mais l'Église distingue bien spirituel et bien temporel. Et c'est remarquablement formulé, notamment, je ne sais pas si tu connais Saint Ignace de Loyola, dans Le principe et fondement, qui est à la base des exercices, Saint Ignace dit « L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. » Finalité spirituelle. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant.
Et c'est donc à quelle époque ?
Ben, je crois que c'est 17e, si ma mémoire est bonne, je ne veux pas dire de bêtises. Hein.
Est-ce que c'est à ce moment que l'Église comprend vraiment la séparation du temporel et du spirituel ?
Non, il n'y a pas de séparation. Il y a une distinction. L'Église ne coupe pas les deux.
Est-ce que c'est à ce moment qu'il y a cette distinction qui rentre un petit peu progressivement dans les faits ?
Alors, elle s'est bâtie, je crois qu'elle s'est confirmée à ce moment-là, mais je crois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas tout. Mais il me semble que c'est très clair à ce moment-là. Les choses sont évidentes. Toutes les choses, quand... Saint-Ignace dit toutes les choses, c'est-à-dire l'organisation politique, les lois, la famille, la santé, le travail, etc., etc., n'existent que pour aider les hommes à atteindre leur fin dernière. Et les institutions ont un rôle très, très important. Alors, un point clé en matière de distinction entre le spirituel et le temporel, c'est que l'Église dit « nous sommes là pour éclairer le pouvoir temporel. On n'est pas là pour prendre la direction. Par contre, vous ne pouvez pas vous passer de cet éclairage de la doctrine. »
Grande différence, je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais grande différence avec certaines religions aujourd'hui.
Tout à fait, qui sont des religions théocratiques. Ça, c'est même plus des religions d'ailleurs, c'est avant tout des
pouvoirs politiques. Alors, est-ce que tu peux me donner une image de cette nuance qui semble aussi importante et aussi forte ?
Je pense toujours à cette anecdote qui est plus qu'une anecdote. Fin 19e, donc dans les années 1868, le Napoléon III, l'empereur, avait demandé à rencontrer Monseigneur Pi, ou peut-être déjà Cardinal Pi, il était déjà cardinal, qui était basé à Angers, si ma mémoire est bonne. Poitiers, je ne sais plus, enfin bref, dans l'ouest de la France, c'est loin de la Provence. Hein. Et là, le cardinal, l'empereur demande, Monseigneur, Excellence, que devrions-nous faire ? Et le cardinal Pi lui rappelle, Majesté, il faudrait que vous remettiez tout simplement toutes nos institutions et tout ce qui se fait sous le regard du bon Dieu, mais de manière officielle. Notre Seigneur, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, il y a Napoléon III qui lui dit, oh non, c'est pas possible, les gens comprendraient pas. Et alors là, il y a cardinal Pi qui a cette remarque extraordinaire que je cite à peu près intégralement. Majesté, si de grands politiques comme votre majesté me dit que ce n'est pas possible, je ne suis pas un grand politique et je m'incline devant ce que dit. Mais en tant qu'évêque, je dois vous dire que s'il n'est pas temps pour Jésus, pour notre Seigneur, de veiller et de régner sur notre pays, il n'est pas temps pour le pouvoir de durer. 2 ans après, il était foutu dehors. Avec les vacarmes que l'on connaît, puisque c'était la guerre de 70 et les Allemands à Paris. Voilà.
Prémonitoire.
Exactement, exactement.
Merci une nouvelle fois Yann de la richesse de tout ce que nous dit, ce qui me donne une envie de revenir sur toutes nos premières émissions, car j'ai vraiment le sentiment qu'elles forment une réflexion harmonieuse permettant le développement de la personne. Mais j'ai surtout envie de réécouter cette dernière émission, tant il me paraît important que l'éclairage que tu nous as donné sur la séparation du temporel et spirituel ait plein d'enseignements.
À la semaine prochaine.